Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a un an, la France, comme une bonne partie du monde, se barricadait. Les gouvernements enfermaient leurs pays respectifs et les gens restaient cloîtrés chez eux pour fermer la porte au coronavirus. C'était le confinement, premier d'une série de mots nouveaux qui redéfinissent nos vies. Depuis, il a fallu composer avec les restrictions de circulation, de loisirs et le suivi des courbes de contamination, d'admission à l'hôpital et malheureusement de décès. Au gré des vagues successives et des évolutions de la pandémie, il a fallu attendre des masques, des tests ou des vaccins, vite commercialisés, moins vite livrés. Un an plus tard, le reconfinement guette. Jusqu'à quand va-t-on vivre comme ça? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui par téléphone. Distanciation oblige. Christian Bréchaud, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes virologue, ancien directeur de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, président du Global Virus Network et professeur à University of South Florida. Merci d'être avec nous en direct des États-Unis. Et également Nicolas Sauger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Et enfin Olivier Bouchaud, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. On va commencer avec vous, Olivier Bouchaud. Les chiffres de l'épidémie sont mauvais en Île-de-France et en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis, où se trouve donc l'hôpital Avicenne. On nous dit que les réanimations sont saturées. C'est ce que vous constatez chez vous ?
Dans notre hôpital, oui, c'est tout à fait clair, avec une discordance assez étonnante et qu'on n'explique pas très très bien, qui est que les services de réanimation, au sens un peu large du terme, puisqu'on était obligé d'étendre le périmètre de la réanimation classique, sont complètement saturés, alors que les services de médecine sont paradoxalement un peu moins saturés, au sens où il y a un peu moins cette pression qu'il y a sur la réanimation. Ce qui peut vouloir dire que alors, soit il y a un petit peu plus de patients graves, soit les patients sont davantage gérés, excusez-moi du terme, mais c'est celui qu'on utilise couramment, en ville, et quand ça se passe pas bien, et ben, les patients sont tellement graves qu'ils vont directement en réanimation avant de passer, ce qui était le cas avant, par les services de médecine non réanimatoire.
Alors, ce que je vous demande juste une petite précision, ça veut dire que vous avez un petit peu poussé les murs de la réanimation à l'hôpital Avicenne ?
Oui, c'est-à-dire que alors, ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que en l'absence de confinement, ce que personne ne souhaite, et on verra ce qu'on nous annonce dans les heures ou dans les jours qui viennent, mais en l'absence de confinement, on doit faire face non seulement aux patients qui ont le Covid, qui ont des formes graves de Covid, mais également aux indications de réanimation standard indépendamment du Covid. Ce que nous n'avions pas, ou beaucoup, beaucoup moins, dans la première période de confinement il y a un an, où comme la vie était complètement gelé, les besoins de réanimation hors Covid étaient beaucoup plus faibles. On l'a payé, quand je dis « on », c'est les patients l'ont payé parfois un petit peu cher dans un deuxième temps, mais en tout cas, il n'y avait pas ces deux gros flux de patients. Mmh. Alors que là, actuellement, on a deux gros flux, le flux des patients Covid et le flux des patients non Covid, ce qui veut dire qu'on a poussé un petit peu les murs de la réanimation pour pouvoir accepter davantage de patients qui ont besoin de soins de réanimation.
Alors Christian Bréchaud, en direct des États-Unis, je ne sais pas si c'est pertinent, mais on va quand même tenter de prendre un petit peu de recul et d'avoir une vision un peu plus globale de l'épidémie. Elle en est où? Quelle est sa dynamique? Je ne sais pas si on peut parler d'une évolution au plan mondial. C'est vous qui allez me le dire d'ailleurs.
Bah, écoutez, d'abord, ce qu'on a appris, mais on le savait déjà sur d'autres virus, hein, c'est à quel point il faut avoir une grande humilité par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire, je veux dire qu'il y a manifestement des variations cycliques de ces virus qu'on ne comprend pas très bien. Il y a simplement un mois, on annonçait finalement une décrue de l'épidémie, et c'est vrai d'ailleurs dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis, je pense qu'on y reviendra, mais d'autres. Et puis il y en a d'autres où ça a immédiatement repris, et en particulier d'ailleurs malheureusement en Europe, par exemple l'Italie est un bon exemple. Donc je dirais que globalement, l'évolution de la pandémie actuelle est moins forte, indiscutablement, que ce qu'elle était il y a quelques mois, mais, encore une fois, avec des variations cycliques qu'on ne contrôle pas. Et le grand sujet, c'est évidemment, au moins pour certains pays, parce que malheureusement, ça ne s'applique qu'à certains pays, comment la vaccination va impacter sur ces évolutions.
Alors, on va en reparler, évidemment, mais ce qui ressort de ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quand même une certaine forme d'incertitude sur l'évolution de la maladie. Nicolas Sauger, c'est cette incertitude qui met les gouvernements, et notamment européens, à l'épreuve, notamment ceux des démocraties occidentales. C'est difficile de prendre des décisions quand on ne sait pas ce qu'il va se passer.
Oui, alors évidemment, c'est difficile pour les gouvernements, c'est difficile aussi pour la population. Hein. L'incertitude est toujours un facteur d'anxiété, de risque, et finalement, ça met tout le monde très mal à l'aise. Après, normalement, les démocraties, historiquement, elles sont là pour gérer le risque. Hein. Elles sont pas là pour gérer les certitudes. Quelque part, s'il y avait des certitudes, surtout, on n'aurait pas besoin de démocratie. Les scientifiques, entre guillemets, résoudraient très bien les problèmes. Et c'est parce que, justement, il y a de l'incertitude qu'on a besoin de politique pour faire des paris, pour expliquer aussi comment on prend ces paris et quelle est la légitimité et le raisonnement derrière ces paris.
Mmh. Le pari, justement, du gouvernement français, c'était que l'épidémie allait décroître. On nous avait même donné un horizon de 4 à 6 semaines. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est simplement un pari perdu ou c'est un mauvais choix ?
Alors, les mauvais choix, hein, on pourrait le dire avec un petit peu plus de recul, parce que les choix sont toujours, comme vous le disiez, très compliqués, et comme on ne connaît pas la fin de l'histoire, il est toujours difficile d'émettre un jugement sur le moment. Ensuite, est-ce qu'il y a un pari risqué ? Oui, mais on pourrait dire qu'il y a différents horizons dans le raisonnement politique. Il y avait un horizon de court terme, qui était de ne pas, au moins à court terme, enrayer une petite reprise économique, et aussi de permettre un semblant de retour, non pas à la vie normale, mais en tout cas à une vie moins contrainte. Et c'était cette dynamique-là que le gouvernement, il me semble, ne voulait pas enrayer. Après, avec le pari que s'il y a besoin d'un confinement, il sera localisé et temporaire, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va vivre dans ces prochaines heures.
Olivier Bouchaud, je reviens vers vous pour prolonger un petit peu tout ce dont on parlait tout à l'heure. La stratégie du gouvernement français, jusqu'ici, depuis un an, c'est de tenter de contrôler le virus pour éviter en priorité que le système hospitalier craque sous la pression. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des marges de manœuvre, des créations de lits possibles dans le privé, par exemple ?
Alors, si je peux me permettre de compléter votre propos,
allez-y.
Ce que vous dites est parfaitement vrai, mais en ménageant aussi la vie économique et les conséquences sociales d'une éventuelle interruption de la vie économique. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut, d'un côté de la balance, éviter le débordement des services de réanimation et du système de santé de façon générale, et d'un autre côté, essayer de ménager le plus possible la vie économique et donc la vie sociale. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, la marge de manœuvre, elle est relativement grande sur les services de médecine standard, et notamment si on rentre dans une phase de confinement, il y aura beaucoup moins de recours pour des problèmes de santé courants, puisque les gens seront moins exposés restant chez eux, et donc ça va laisser une marge de manœuvre pour hospitaliser des personnes malades du Covid dans des services de médecine standard. Par contre, et donc avec des médecins et des infirmières qui vont être libérés, qui ne seront peut-être pas forcément hyper performants, mais qui seront tout à fait capables de gérer des patients non graves. Par contre, la marge de manœuvre en réanimation, elle est beaucoup plus limitée, parce que vous imaginez bien que, d'une part, il y a un problème de matériel. Ce qu'on appelle les ventilateurs, là, ces machines qui insufflent de l'air dans les poumons des gens qui ne peuvent plus respirer normalement, on ne peut pas les inventer. Et puis surtout, il y a un problème de personnel, et là, on a besoin de personnel spécialisé et hyper compétent. On ne peut pas s'improviser réanimateur du jour au lendemain, de même qu'une infirmière de soins standard, si je puis dire, ne peut pas s'improviser du jour au lendemain infirmière de réanimation. Et c'est là où il y a le goulet d'étranglement. Or, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a plutôt un rajeunissement des personnes qui sont hospitalisées en réanimation par rapport à ce qu'on a connu dans la première vague et dans la deuxième vague. Et ce rajeunissement de la population pose plus de problèmes éthiques. Alors ce que je vais dire peut choquer, mais je pense que chacun pourra le comprendre aussi, pose encore plus de problèmes éthiques sur des gens jeunes ou relativement jeunes, s'il y a besoin de faire des choix qu'il n'en a posé, très peu heureusement, au moment de la première vague, où les patients en réanimation et pour lesquels la question pouvait se poser étaient beaucoup plus âgés.
Alors, pardon de compléter, Olivier Bouchot, mais au moment de la première vague, notamment, on nous a expliqué qu'on avait augmenté le nombre de lits pour faire face à cette première vague, et que juste après, on avait baissé le nombre de lits. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça, on peut pas réaugmenter le nombre de lits, si ça avait été vraiment le cas, d'ailleurs, peut-être que vous allez nous le dire, nous le confirmer ou pas.
Alors, en fait, cette augmentation du nombre de lits, elle ne s'est pas faite d'un coup de baguette magique. Encore une fois, on ne peut pas inventer des locaux, des machines et surtout du personnel, parce que c'est surtout le personnel qui est le facteur limitant.
Non, mais est-ce que ça a été vraiment fait ? Est-ce que donc on peut le refaire ? C'est ça, en fait, ma question.
Non, mais en fait, ce qui a été fait, c'est qu'il y a des services ou des unités qui servent habituellement à gérer les problèmes de post-opératoire, donc les anesthésies, ce qu'on appelle les salles de réveil après une intervention, quelle qu'elle soit, qui sont gérées par des anesthésistes plus que par des réanimateurs. Et ce sont ces lits-là qui ont été transformés en réanimation. Et c'est pour ça qu'on a donné l'impression qu'on avait cette marge de manœuvre de pouvoir augmenter les capacités de réanimation. Mais en fait, c'était des lits préexistants, du personnel préexistant, mais qui était affecté à d'autres tâches proches de la réanimation, mais qui ne sont pas de la réanimation. Mais au-delà de la réquisition, si je peux utiliser ce terme-là, de ces lits et de ces personnels, on n'a pas cette marge de manœuvre que peut-être certaines personnes ont cru comprendre, pour la raison que j'ai dit déjà, c'est que ça ne s'invente pas. On n'invente pas des respirateurs, on n'invente pas des réanimateurs, on n'invente pas des locaux où on fait de la réanimation.
On va retourner aux États-Unis avec Christian Bréchaud, qui nous parlait tout à l'heure de la vaccination. La vaccination qui a bien avancé aux États-Unis, hein, quand la machine logistique américaine se met en marche en général, ça fonctionne assez vite. Est-ce que ça change quelque chose depuis que cette campagne de vaccination aux États-Unis et ailleurs dans le monde a changé, a commencé, pardon.
Oui, alors ça change tout. C'est-à-dire que on le sait tous, mais il faut le redire, Covid-19 restera une année invraisemblable d'un succès vaccinal comme on n'en avait jamais connu, d'un effort d'innovation absolument remarquable. Il y a eu tellement de drames et on a tellement de difficultés qu'il faut également souligner ça, et donc d'un immense succès. Je dirais que malheureusement, ça se traduit actuellement par une immense inégalité par rapport au vaccin. Les États-Unis, l'ambiance est extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, comme vous disiez, c'est vraiment la force américaine. Il y a plus de 2,3 millions de vaccinés par jour. Actuellement, plusieurs États ont maintenant considérablement assoupli les règles d'accès, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont la quarantaine, qui peuvent être vaccinés quand ils sont dans des situations d'exposition. Il y a une réouverture progressive des restaurants et des espaces culturels dans plusieurs États. Et Biden a affiché, et il est en train d'y arriver, de réussir au mois de mai à avoir vacciné réellement la population qu'il voulait cibler et qui va leur permettre de retrouver une vie bien plus normale. Et au même moment, on a effectivement l'Europe qui est très tristement à la traîne, en particulier la France, alors que le Royaume-Uni fait bien. Et puis, il faut pas l'oublier, bien sûr, tous les pays dits low income, enfin les pays en développement, pour lesquels il y a, on le sait bien, des enjeux absolument majeurs et dont il va bien falloir s'occuper. Donc, la vaccination aux États-Unis, est-ce qu'elle est responsable ? Il y a une diminution spectaculaire aux États-Unis du nombre d'infection. Là aussi, je crois qu'il faut toujours être très prudent, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais la vaccination, maintenant, y est sûrement pour une partie, ça c'est clair. Ceci dit, il y a encore 55 000 cas par jour aux États-Unis, mais enfin, il y en avait 250 000 par jour il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Donc oui, la vaccination est en train d'avoir un impact indiscutable. Et encore une fois, c'est à la fois fantastique et en même temps, quand on est français, il y a un côté un peu triste.
Nicolas Sauger, Emmanuel Macron, le président français, avait a beaucoup insisté ces dernières semaines sur la campagne de vaccination. Il a beaucoup poussé ses équipes, ses ministres, son administration, et il constate que ça ne va pas aussi vite que ce que lui voudrait. Il a même été parfois un peu vif, hein, en disant qu'il ne reconfinerait pas le pays tant qu'il y aurait des vaccins dans les frigos. Est-ce que c'est la preuve d'une forme d'impuissance du politique ?
Non, je crois. Enfin, c'est pas seulement une preuve d'impuissance du politique. Évidemment, le politique est contraint. Et de ce point de vue-là, même par rapport à la dernière intervention, il faut voir si on se place à une échelle nationale ou à une échelle mondiale et dans quelle mesure on estime que la quantité de vaccins au niveau mondial à un jour donné est finie ou finalement si tout le monde pourrait faire mieux et donc augmenter le nombre de vaccins disponibles dans chacun des pays, ce qui, à ma connaissance, ne semble pas complètement être le cas aujourd'hui. Et donc on voit des logiques un peu nationales qui peuvent être évidemment, qui donnent des bons points hein, au gouvernement qui suivent ces logiques, mais qui en même temps n'a pas été le pari européen pour des bonnes et peut-être des mauvaises raisons aussi, mais quand même avec l'idée que la coopération internationale est absolument nécessaire dans le cas de cette épidémie, parce qu'avoir une stratégie uniquement nationale de vaccination, finalement, c'est permettre l'émergence de variants ou favoriser l'émergence de variants dans d'autres pays. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut relativiser, c'est peut-être plus difficile à entendre. Après, il faut aussi, je pense qu'on est tous un discours et une analyse, et là-dessus, je pense qu'il faut pouvoir mettre collectivement les informations sur la table, sur les capacités, sur les manques, sur où sont les stocks et quel est le problème. Est-ce que c'est un problème de distribution ou de production ? Jusqu'à présent, à ma connaissance, le problème est avant tout un problème de production. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où on peut, comme pour les lits de réanimation, d'un coup de baguette magique, faire augmenter la quantité de vaccins disponibles. Et c'est bien ça, je pense, le problème clé. Ensuite, est-ce que ça veut dire que l'Angleterre, les États-Unis, qui avaient été particulièrement touchés dernièrement dans la maladie, n'étaient pas légitimes à avoir une quantité plus importante de vaccins ? Absolument pas. Mais c'est le raisonnement, notamment à l'échelle européenne, et je pense que de ce point de vue-là, la France est dans une logique européenne qui a aussi ses mérites, et est aussi d'une allocation à la fois juste, mais aussi efficace, de la quantité de vaccins, et c'est vrai qu'il y a peut-être des régions qui en ont un besoin moins immédiat parce que la pression est peut-être aussi moins forte.
Mmh. Olivier Bouchaud, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez que personne ne souhaite un reconfinement, mais compte tenu de la situation dans les réanimations françaises, compte tenu de la disponibilité des vaccins, est-ce qu'un reconfinement, même partiel, vous paraît inévitable à l'heure actuelle ?
Alors écoutez, je fais partie et tout, enfin, un certain nombre de mes collègues ne partageaient pas cet avis que le pari qu'a fait le gouvernement et notamment le président Macron de ne pas reconfiner sur ces deux mois précédents était un pari qui était tenable. Puisque d'un point de vue sanitaire, il aurait fallu reconfiner, ça c'est clair, mais ne tenir compte que de la dimension sanitaire sans tenir compte de la dimension économique et donc sociale n'est pas non plus tout à fait raisonnable. Et même en tant que médecin clinicien ou épidémiologiste, on doit prendre en compte cette dimension économique et sociale. Et donc le pari était légitime et on a quand même gagné deux mois. Maintenant, il me semble que cette tension sur la réanimation qui perdure alors qu'on aurait pu espérer qu'elle se relâche un petit peu, justifie un confinement. Alors est-ce qu'il doit être partiel, est-ce qu'il doit être total, c'est pas à moi d'en juger, et je serais bien en peine de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et comme le disait Christian Brichot tout à l'heure, il faut avoir que tout le monde n'a pas eu, l'humilité de dire « je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, j'ai peut-être une préférence pour telle option, mais c'est très difficile d'être certain de son coup ». Mais je pense qu'il faut effectivement maintenant qu'on passe à une dimension de contrôle de la circulation du virus beaucoup plus stricte que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Christian Brichot, justement, vous vouliez réagir sur ce qu'a dit précédemment Nicolas Songer et peut-être ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit.
Oui, et merci. Mais avant de faire ça, je voulais dire à quel point je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier Bouchaud sur le choix du président que moi aussi je pensais courageux et effectivement tout le monde ne partageait pas. Non, par rapport à ce qui a été dit, moi je comprends très très bien, bien sûr la production, mais c'est malheureusement plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un problème de production, il y a un problème de logistique. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais et je cherche pas du tout à être critique de façon systématique, hein, ça n'a pas du tout été mon style, mais je pense qu'on doit également essayer de préparer le coup d'après et donc de s'améliorer. Il y a évidemment un problème de logistique et pas seulement de production. On n'a pas voulu des vaccinodromes. Maintenant, on n'a pas le droit de dire le mot, mais on y vient. Et évidemment, si la vaccination marche très très bien au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est parce qu'il y a d'immenses vaccinodromes et c'est comme ça qu'ont fait les Israéliens qui nous ont réellement appris. Et je pourrais citer d'autres choses. Quand la Haute Autorité de Santé était d'accord il y a 2 mois pour espacer la deuxième dose qui nous aurait sauvé 700 000 doses, ce qui nous aurait permis de vacciner et peut-être, hein, il faut vraiment rester très très prudent, mais peut-être d'éviter certains reconfinements, on l'a pas fait. Et maintenant, les papiers sortent qui montrent que ça pouvait être fait, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une analyse qui soit approfondie. Bien sûr, il y a des questions de production. Moi, je pense que le paradoxe, c'est que les États-Unis vont nous montrer qu'ils vont aider bien avant nous les pays en Afrique, etc., parce que Biden a déjà annoncé que les surplus de doses qu'ils auraient à partir de mai, ils les donneraient. Il y a une réunion avec l'Australie, l'Inde et le Japon des États-Unis où Biden s'est engagé à lancer sur l'Asie du Sud-Est des vaccins. Donc le paradoxe,
oui, 1 milliard
c'est
de doses de Johnson et Johnson,
de
c'est
stratégie pour nationale. Mais en fait, à mon avis, ils auront une stratégie qui est assez internationale.
Nicolas Sauger, le conseil scientifique recommande des mesures localisées. D'abord, première chose, est-ce que c'est une bonne chose que le président ait renoué avec le conseil scientifique, hein. On sait qu'il s'en était un petit peu agacé par moment. Et est-ce que le fait de ne pas appliquer les mêmes mesures sur tout le territoire, ça vous paraît politiquement viable ?
Alors, par rapport au conseil scientifique, hein, je pense qu'à partir du moment où on met en place des institutions, c'est toujours un petit peu délicat et compliqué de s'en débarrasser ou en tout cas de les négliger. Il y a un problème de cohérence et du message et de la politique suivie, ça on a pu le voir aisément. Ensuite, la question du confinement territorialisé par rapport à un confinement national, il y a quelque part à la fois un niveau épidémiologique, on pourrait dire, pour lequel je ne suis absolument pas compétent pour vous dire si c'est suffisamment ou non efficace. Deuxièmement, je pense qu'il y a évidemment le diable est toujours dans les détails et il y a beaucoup de mesures complémentaires ou de détails dans l'application de ces mesures-là qui vont être importants en termes d'efficacité. Et après, c'est probablement une question aussi du récit national qu'on veut entendre. Il me semble qu'à ce stade, après des décisions sur les Hauts-de-France, sur Nice, de confinement localisé, et avec un constat que la situation en Île-de-France reste localisée et correspond à ces situations-là, il va être difficile d'argumenter, si ce n'est par un constat plus large, que l'Île-de-France vaut règle nationale quand les autres régions ne veulent pas règle nationale. Donc je pense que là-dessus, il y aurait une difficulté politique, hein, très clairement pour le gouvernement, il n'y a pas un récit argumentant un confinement national au-delà du cas de l'Île-de-France.
Olivier Bouchaud, le conseil scientifique, donc, il recommande des mesures localisées, c'est ce qu'on a cru comprendre ces dernières heures. Un pilotage différencié des mesures, c'est une bonne solution ? Est-ce qu'il vous paraît nécessaire de recommencer quelque chose de peut-être plus massif, comme il y a un an ?
Écoutez, il me semble que c'est beaucoup plus cohérent de suivre le virus en essayant de précéder un peu le virus en essayant de bloquer la circulation là où elle est la plus intense. Et il me semble que compte tenu de l'impact économique et social considérable, il faut quand même toujours l'avoir en tête.
La région Île-de-France, oui.
Oui, mais pour les autres régions aussi, il me semble qu'une la définition d'une politique à un niveau national, alors que la circulation du virus n'est pas homogène au niveau national, n'est pas logique. Et donc prendre des décisions, mais qui doivent être les plus précoces possibles, parce que la précocité est quelque chose de très important pour éviter les conséquences ensuite très, très lourdes, de façon hétérogène, c'est-à-dire en fonction des chaînes de circulation locales ou régional, mais pas au-delà du virus, est complètement logique et me paraît une bonne politique de santé. Alors après, derrière ça, il y a des aspects politiques au sens plus général du terme, plus politicien, si je puis dire, et où on ne veut pas faire de distinction entre telle ou telle région, alors qu'on l'a quand même déjà fait à un certain moment. Bon, ça sont des choses qui m'échappent et qui ne m'intéressent pas beaucoup, mais je pense que c'est tout à fait cohérent d'avoir une attitude différenciée selon l'intensité de la circulation dans telle ou telle région.
Christian Bréchaud, c'est votre avis également ?
Écoutez, je pense c'est extraordinairement difficile comme décision là, mais je suis assez d'accord en fait avec Olivier Bouchaud, avec ce qui vient d'être dit. Je pense que, et puis je pense, si vous voulez, aussi que on peut pas se permettre alors je sais que c'est un côté incantatoire, mais on peut pas se permettre de refaire un reconfinement général national comme on a fait il y a un an. C'est un tel échec. On va pas en parler là, mais il y a les aspects des masques, bien sûr, à un moment, puis il y a eu les tests diagnostiques, etc. Donc, et maintenant, avec les vaccins qui, quand même, arrivent relativement progressivement seulement en France, moi, je pense qu'il faut tout faire pour essayer d'éviter un reconfinement national, mais c'est évidemment... très, très difficile.
Nicolas Sauger, il y a eu récemment une enquête d'opinion qui indiquait qu'une majorité de personnes interrogées ne croient pas à une amélioration immédiate. Est-ce qu'il y a une forme de fatalisme ? Est-ce qu'on va peut-être à un moment avoir un problème d'acceptabilité ?
Je crois que le problème d'acceptabilité, il est en évolution constante depuis le début de l'épidémie et qu'il y a déjà eu beaucoup de transformations. Il y avait quelque part pratiquement un soulagement au début de l'épidémie avec les mesures de confinement ou de restriction des libertés, quand aujourd'hui elles sont vues comme une contrainte principalement et pas forcément une solution au problème. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est déjà dans cette période. L'acceptabilité, c'est ce qui, quelque part, a guidé aussi le gouvernement depuis plusieurs mois maintenant, avec toute cette problématique en France, et peut-être en France plus que partout ailleurs, et de la peur de la non-volonté d'un certain nombre de Français de se faire vacciner, et la peur de la non-acceptation de mesures plus coercitives. Et là-dessus, je pense que le gouvernement a beaucoup évolué, et la population évolue en même temps, et c'est toujours le problème d'ailleurs pour les politiques, c'est que les politiques ou le discours qui va être tenu, quand ils cherchent à rassurer, va peut-être pratiquement trop rassurer et donc rendre encore plus difficile les mesures coercitives. Mais s'il affole, il va aussi avoir des conséquences délétères. Et donc, il y a toujours une navigation et une communication un petit peu compliquée. Et on voit qu'elle n'est jamais complètement maîtrisée parce que, de toute façon, l'exercice est pratiquement impossible.
Christian Bréchaud, on va terminer avec vous. Est-ce qu'on sait, est-ce que vous, comme virologue et président du Global Virus Network, vous savez avec certitude si la situation va commencer à s'améliorer? Et évidemment, question subsidiaire, quand?
Alors, à partir du moment où vous dites avec certitude, je vais vous répondre non. Mais ce qu'on peut vraiment espérer, moi je crois, c'est ce qu'on voit, parce que ça va partir des États-Unis. Et je pense, et ça va finir quand même par arriver en Europe, justement. Moi, je crois personnellement qu'à partir de la fin mai, la situation aux États-Unis sera considérablement améliorée. Et je pense qu'en Europe, à partir de cet été, on sera dans une situation qui est bien meilleure. Mais j'ai répondu alors que c'est extraordinairement difficile de répondre.
Merci beaucoup d'avoir tenté, en tout cas, de donner votre avis, Christian Bréchaud. Merci également à Nicolas Sauger et à Olivier Bouchaud, nos autres interlocuteurs. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Pons à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI, ce sera dans moins d'une minute. Prenez soin de vous et des autres, appliquez les gestes barrières, continuez à être prudents et bonjour chez vous.
Demain sur RFI.